jusqu'au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en. Nous sommes vendredi dans 30 minutes, la Libre Antenne, l'occasion pour vous tous et vous toutes de commenter l'actualité de votre choix. Et parmi les sujets qui vous font réagir ce matin, il y a notamment la création hier en Côte d'Ivoire d'un front commun entre les deux principaux partis de l'opposition, PDCI, PPACI, en vue de la présidentielle du mois d'octobre. On nous interpelle sur le procès au Sénégal de Moustapha Diakaté, c'est l'ancien chef de cabinet de Macky Sall. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Vous êtes encore nombreux à nous appeler de Guinée pour réagir à la création de ce nouvel organe qui sera chargé d'organiser les élections, une instance qui est directement rattachée au gouvernement, d'où la polémique. Les sujets, vous le voyez, ne manquent pas. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. La Libre Antenne, c'est donc à partir de 8h40, temps universel. N'oubliez pas, dans un petit quart d'heure, comme tous les vendredis, Jessica Taïeb, elle nous rejoindra pour sa chronique Un œil sur les réseaux. Jessica a passé la semaine à scruter les réseaux sociaux et elle viendra nous parler d'un sujet qui fait débat et sur lequel vous aurez peut-être envie de vous exprimer tout à l'heure dans la Libre Antenne. Mais d'abord, vos questions. C'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. On commence avec Vainqueur. Bonjour, Vainqueur.
Bonjour, RFI. Bonjour, la radio du monde.
Je crois que c'est la première fois que nous avons un auditeur qui nous appelle Didjoui. Didjoui, c'est en République démocratique du Congo. C'est une île qui se trouve au milieu du lac Kivu, c'est ça ?
Oui, c'est ça, vraiment, c'est à l'île Didjoui.
Très bien, bah écoutez, merci à vous de nous écouter. Vous avez des questions concernant votre pays, la RDC?
Oui, j'ai des questions, Juan, sur les accords de paix entre la RDC et les Rwandais. Mmh. Monsieur Gomez, les diplomates congolais et rwandais ont signé un accord de paix préliminaire à Washington. Que sait-on sur les contenus de ces documents?
Oui.
Quelle est la suite pour que ces documents ou bien cet accord soient mis en œuvre?
Effectivement, bonne question que vous posez. Il a fallu quelques jours de discussion, mais effectivement, les experts des deux pays ont fini par s'entendre, par se mettre d'accord sur un texte qui pourrait mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Bonjour Patient Ligaudi.
Bonjour Juan, bonjour Vainqueur.
Journaliste au service Afrique de RFI, vous avez pu consulter le document. Quel est le contenu?
Alors, il faut dire déjà que ces documents signés à Washington étaient un accord préliminaire. Il a été paraphé par des équipes techniques de la RDC et du Rwanda. Ce document prévoit en priorité la cessation des hostilités. C'est la première disposition d'ailleurs de ce texte. Ce texte qui prévoit ensuite la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Et ce mécanisme devra être opérationnel dans les 30 jours qui vont suivre l'entrée en vigueur de l'accord. Ce document, donc ce mécanisme, va avoir comme mission de localiser, de neutraliser les éléments armés des FDLR et les deux pays se sont donc engagés à coopérer pour affronter ces groupes. Les documents évoquent aussi la nécessité de conclure les négociations entre le gouvernement congolais et les groupes AFC-M23 avec la participation de ce groupe à un dialogue intercongolais. Il faut aussi noter un changement. Le texte ne reprend plus certains préalables qui figuraient dans une version précédente qu'on avait également consultée. Mmh. Sur le plan économique, parce qu'il s'agit également de l'économie, la RDC et le Rwanda s'engagent à coordonner leurs efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais et mettre en place des chaînes de valeur transparentes avec un éventuel appui des États-Unis et également d'investisseurs américains. Enfin, ce texte s'appuie sur les concepts d'opération, ce qu'on appelle les CONOPS, qui a été élaboré à Luanda. Et ces CONOPS prévoient plusieurs étapes, notamment le démantèlement des FDLR, l'arrêt des incursions transfrontalières par le Rwanda, et un suivi par ce mécanisme de vérification, ce mécanisme dont on a parlé tantôt.
Voilà donc pour les propositions concrètes qui figurent sur ce document. Quelle est la suite, Patient Ligaudi? J'ai cru comprendre que le document doit maintenant être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays?
Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit que c'était un document préliminaire, puisque la rencontre entre ministres des Affaires étrangères est prévue le 27 juin 2025, toujours à Washington, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ensuite, il y aura un sommet des chefs d'État africains qui est prévu. Ce sommet devra réunir Félix Tshisekedi, Paul Kagame, ainsi que d'autres dirigeants africains qui seront témoins ou garants de l'accord. Mais sur le terrain, si l'accord entre en vigueur, il faudra mettre en place le mécanisme conjoint, commencer les désarmements des groupes armés et relancer les dialogues entre Congolais. Il ne faut pas oublier que ce processus est aussi lié à un autre dossier. Il s'agit donc des discussions entre le gouvernement congolais et l'FCM23. Ça se passe à Doha sous la médiation qatarite. Et ces négociations visent aussi un document d'accord qui pourrait être finalisé d'ici à la mi-juillet en lien avec l'accord plus large signé à Washington.
Bon, en tout cas, s'agissant de l'accord sous l'égide des États-Unis, la fumée blanche devrait donc sortir le 27 juin, dans tout juste une semaine, ce sera vendredi prochain. Vainqueur, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci, vous avez répondu, je suis satisfait.
Bonne journée à vous et un grand merci à Passion Ligaudy, journaliste au service Afrique de RFI. 10h17 à Paris, vous nous rejoignez au standard 33 9 693 693 70. Nous répondons à vos questions. Christ, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour Juan Gomez.
Christ, vous avez des questions sur la Polynésie française, 30 ans après la fin des essais nucléaires.
Exactement, Juan. Une commission d'enquête parlementaire a rendu un rapport estimant que la France devait s'excuser pour ses essais nucléaires en Polynésie. Alors, quelles sont aujourd'hui les conséquences de ces essais nucléaires en Polynésie ?
Ouais, je rappelle qu'entre 1966 et 1996, donc durant 30 ans, la France a procédé à près de 200 essais nucléaires dans ce territoire du Pacifique. Les retombées toxiques ont causé des ravages. Hein. On estime que 250 000 personnes ont été exposées aux radiations. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour Juan et bonjour Christ.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service France de RFI. Quelles sont aujourd'hui les conséquences de ces essais ?
Alors elles sont environnementales. D'abord sur un territoire composé d'une centaine d'îles au milieu de l'océan Pacifique où la faune, la flore sont abondantes. Sur les 200 tests nucléaires réalisés par la France, une cinquantaine ont été réalisés à l'air libre ou dans l'atmosphère. Conséquence, l'onde de choc créée par l'explosion a fissuré certains récifs coralliens. Elle a aussi provoqué parfois la mort instantanée de milliers de poissons dans les lagons. Sans compter évidemment les retombées radioactives parfois facilitées par les pluies tropicales. Résultat, la terre, les rivières, l'océan et les espèces qui y vivent ont été durablement contaminées. Aujourd'hui, puisque c'est la question de Christ, la radioactivité sur place est marginale, d'après les experts auditionnés par la commission d'enquête, même si certains éléments, comme le plutonium par exemple, restent radioactifs sur des milliers d'années. Quant à la nature, elle reprend peu à peu ses droits, retrouve un équilibre, réapparition par exemple de certains coraux, mais ce nouvel équilibre ne signifie pas un retour à la situation initiale, nuance le rapport. Certaines espèces d'oiseaux, par exemple, n'ont plus été observées sur place depuis 1968, c'est-à-dire les premières années de ces tests nucléaires.
Ouais, je le disais en préambule, selon les estimations, jusqu'à 250 000 personnes ont été exposées aux radiations. Les conséquences sont donc également sanitaires.
Oui, c'est cela, retombées radioactives qui ont contaminé les populations locales. 90% de la population polynésienne a reçu une dose de radiation supérieure à 1 millisievert. On rappelle que le millisievert, c'est l'unité de mesure de la radioactivité dans le corps humain. Les conséquences, elles sont là aussi toujours observables aujourd'hui. Certains Polynésiens, mais aussi des vétérans de l'armée française qui ont supervisé ces tests nucléaires, eh bien, ils ont développé des cancers. Une étude de l'INSERM, par exemple, qui remonte à il y a 2 ans, estimait que ces essais étaient responsables de 1 à 8% des cancers de la thyroïde en Polynésie. C'est un impact faible, mais qui n'est donc pas inexistant non plus. Et à ce jour, on estime que 1200 personnes ont été indemnisées et donc reconnues par la France victimes de ces tests nucléaires.
En tout cas, cette semaine, donc, et Christian faisait référence à l'instant, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale a rendu un rapport sur ce sujet et ce rapport liste 45 recommandations pour élargir justement et assouplir l'indemnisation des victimes. Rapport qui, effectivement, demande que la France s'excuse. Et justement, Christ, vous avez une question là-dessus.
Voilà. Au-delà de l'aspect symbolique, que pourrait impliquer cette demande de pardon.
Baptiste Coulon.
Eh bien, elle permettrait en fait d'abord de soulager les Polynésiens parce que pour eux, l'intérêt, c'est de tourner cette page et cette histoire douloureuse. C'est en tout cas ce que nous expliquait avant-hier la députée de Polynésie, Mériana Ribarbelot, que nous avions rencontrée, rapporteure de la commission d'enquête. Selon elle, cette demande de pardon, ce n'est pas du tout du symbole, encore moins de la repentance. C'est une attente forte des Polynésiens. D'autant que sur place, il faut bien comprendre, la colère, la défiance vis-à-vis des autorités françaises est encore forte, même 30 ans après la fin de ces essais, parce qu'à l'époque, les dangers, les conséquences de ces tests ont été minimisés, voire complètement cachés à la population. Ce pardon adressé à la Polynésie, il ne serait pas un pardon oral, il serait inscrit dans le marbre de la loi votée par l'Assemblée nationale. Vous le disiez, c'est l'une des 45 recommandations de ce rapport.
À suivre donc. Christ, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
Parfaitement bien, merci à vous.
Et à Baptiste Coulon du service France de RFI. Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée à vous.
10h21 à Paris. Allez, on repasse au standard avec d'autres questions, évidemment. Des questions comme tous les jours depuis maintenant une semaine sur la guerre Israël-Iran. Huitième nuit consécutive de frappe. Abdelrazak, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe de l'Appel sur l'actualité.
Et merci de nous écouter au Tchad. On écoute vos questions.
En réponse au propos Trump, l'Égypte suprême iranien menace les États-Unis de dommages irréparables. Juan, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette déclaration ?
Dommages irréparables, effectivement, ce sont les propos d'Ali Khamenei avant-hier. C'était d'ailleurs sa deuxième prise de parole depuis le début du conflit. Bonjour Dominique, général Dominique Trinquant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, spécialiste des relations internationales. Il y a donc eu les propos d'Ali Khamenei et une autre déclaration hier venant de Téhéran. Toutes les options sont ouvertes en cas d'intervention américaine. Que faut-il comprendre ?
Alors d'abord, je salue l'interlocuteur du Tchad. Écoutez, toutes les options sont ouvertes, c'est-à-dire que, premier point, c'est une menace envers les États-Unis. C'est pour empêcher les États-Unis d'intervenir directement, même si indirectement, aujourd'hui, ils soutiennent largement l'armée israélienne. Toutes les options sont ouvertes. Il faudrait rappeler que l'Iran pratique bien volontiers l'action indirecte. Les Français en ont subi les dommages avec l'attentat du Drakkar à Beyrouth, un immeuble qui avait été détruit avec beaucoup de 85 parachutistes qui ont été tués. Eh bien, c'est les attaques indirectes, que doivent craindre les États-Unis. Alors, on ne va pas revenir sur le 11 septembre, qui n'était pas une attaque des Iraniens, mais qui est une attaque indirecte. Donc, je pense que c'est ce type de menace qui est proféré par l'Iran, mais il pourrait y avoir des attentats contre les intérêts américains, que ce soit aux États-Unis ou en Irak, par exemple.
Mais général Dominique Trinquant, l'Iran a-t-il les moyens aujourd'hui ?
Alors, les attaques indirectes, oui, il n'a plus les moyens vraiment contre Israël. Il faut rappeler que le Hamas, le Hezbollah ou la Syrie qui agissaient directement contre Israël sont considérablement réduits. Mais contre les États-Unis, des attaques indirectes comme celles que je viens de citer sont tout à fait possibles, pas maintenant, mais sur le long terme, des attaques contre des intérêts américains dans le monde.
Oui, en tout cas, Donald Trump, pour l'instant, il continue d'entretenir le flou sur une participation des États-Unis. Il se laisse deux semaines pour décider, oui ou non, d'une implication américaine. Autre question au standard. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan Gomez.
Nous vous écoutons, merci de nous appeler du Sénégal.
Vladimir Poutine dit vouloir agir en tant que médiateur dans la guerre qui oppose l'Iran et l'Israël. Pourquoi, dans un premier temps, Trump s'est dit favorable à cette proposition et aujourd'hui, il semble s'y opposer ?
Général Dominique Trinquant, on a comme l'impression que le président américain fait marche arrière.
Oui, bonjour au Sénégal tout d'abord. Et puis, bien sûr, le président américain est très embêté de la situation. Il était en cours de négociation avec l'Iran, qui ne débouchait pas vraiment. Mais cette pression peut être utile, la pression israélienne peut être utile. C'est, vous savez, ce qu'on appelle en termes américains le bad cop good cop, c'est-à-dire que M. Netanyahou, lui, frappe, et M. Trump laisse ouvert la négociation. Simplement, les Russes ne peuvent pas avoir d'implication dans cette négociation, tout simplement parce que ce sont des soutiens appuyés de l'Iran.
Oui.
Alors aujourd'hui,
mais en même temps, excusez-moi, Général Dominique Trinquant, aujourd'hui, Vladimir Poutine est quand même le seul à pouvoir décrocher son téléphone et appeler en même temps le président iranien, le premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump.
Alors, pas vraiment le seul. Hein. Je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui, à Genève, se réunissent les ministres des Affaires étrangères européens avec le ministre des Affaires étrangères iranien et que les Américains se sont déclarés prêts à venir. Donc, ce sont les Européens qui cherchent à trouver une voie de négociation actuellement et M. Poutine, qui lui, au contraire, approvisionne en armement l'Iran, en particulier en armement anti-aérien, n'a pas de capacité d'être un médiateur.
Bon, en tout cas, Donald Trump lui a dit pas plus tard qu'il y a 48 heures, occupe-toi d'abord d'une médiation avec l'Ukraine et tu t'occuperas du conflit au Moyen-Orient plus tard. Voilà, c'est le verbatim, hein. Je reprends dans ma voix les propos du président américain. Merci infiniment, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et je rappelle votre dernier ouvrage publié aux éditions Robert Laffont, D'un monde à l'autre. Il est 10h26, on a 4 minutes pour accueillir Jessica Taïeb. Bonjour Jessica.
Bonjour Juan.
Vous avez passé la semaine à scruter les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Et cette semaine, les sujets des examens nationaux en Guinée enflamment les réseaux. Au cœur de la polémique, les épreuves de rédaction du certificat d'études en primaire et du brevet au collège. Les élèves, tenez-vous bien, ont dû plancher, moi si ça m'arriverait, bon, voilà, mais les élèves ont dû plancher sur un sujet qui ne figure pas au programme.
Ah, si vous n'avez pas encore entendu parler du méga projet minier Simandou 2040, c'est certainement que vous ne vivez pas en Guinée. Hein. Son nom apparaît en grand sur des affiches dans la rue, il est à la une des médias. Le projet sans cesse vanté par la transition est omniprésent dans le quotidien des Guinéens. Et désormais, Simandou est même devenu un sujet d'examen hein, depuis le début de la semaine, la photo de l'épreuve de rédaction du BEPC a été partagée et commentée des milliers de fois. On parle ici de l'examen qui permet aux élèves de passer au lycée. Oui. Sur l'image, on lit « Le projet Simandou est en pleine réalisation et cherche à recruter des jeunes pour participer au développement de ta nation. » Quelles études comptes-tu faire? Et les collégiens avaient 2h15, hein, très précisément, pour rédiger leur dissertation.
Effectivement, pas évident comme rédaction. Je le disais en préambule, Jessica Taïeb, le BEPC n'est pas le seul examen national de fin d'année qui a mis l'accent sur ce projet minier.
Et non, hein, le certificat d'études élémentaires, l'examen qui permet de passer du primaire au collège, est également concerné. Hein. La photo de l'énoncé écrit à la craie sur un tableau noir fait le tour des réseaux sociaux.
Oui, je l'ai vu, ça.
Voilà. Et en fait, à chaque des centaines de partages et de commentaires. Il faut dire que l'énoncé du sujet est assez déconcertant. Alors, les premières lignes évoquent les conséquences du projet Simandou, notamment la création d'emplois et le regroupement de populations dans des zones où il pleut beaucoup, avant de demander aux élèves des conseils pour prévenir les maladies contagieuses.
Ah ouais, c'est plutôt inattendu comme énoncé. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, Jessica Taïeb, les réactions sont très nombreuses. Ça va entre l'incompréhension et l'indignation.
Je vous lis quelques commentaires. C'est inadmissible que des gens fassent de notre système éducatif un instrument de propagande. Simandou n'existe pas dans nos programmes d'études. Et cet internaute qui est sceptique. L'État guinéen exagère avec ce projet. On dirait que la Guinée n'a rien d'autre à part ça. Et malheureusement, de nombreux Guinéens ne bénéficieront pas de ces mines. Ils vont juste en entendre parler. Ou encore celui-ci qui ajoute une pointe d'humour. Cette histoire de Simandou devient compliqué. En Guinée, chaque jour, c'est partout, même dans nos tasses de café.
Oui, ah oui. Beaucoup de dérision hein, donc autour de ces épreuves écrites, mais cela ne suscite pas que des critiques.
Hein. Mais des internautes sont même allés jusqu'à poster sur Facebook leurs propositions de rédaction hein, en réponse à l'énoncé de l'examen. Preuve que certains applaudissent quand même le sujet des épreuves. Sous leur publication, des centaines de commentaires, je vous en partage quelques-uns. Je ne vois pas en quoi ce sujet est particulièrement complexe. Au vu de la médiatisation du projet, les candidats savent traiter ce thème. Cette Guinéenne qui pense aussi que la polémique va trop loin. Certains crient que ce n'est pas adapté aux enfants, mais prenez au moins le temps de lire le sujet en entier. On ne leur demande pas d'expliquer un projet minier. Et je termine avec cette question. Si l'on n'adapte pas l'éducation des jeunes aux réalités de notre pays, à quoi va-t-elle servir ? L'éducation doit être en adéquation avec notre quotidien et nos projets.
Bon, en tout cas, la polémique est loin d'être terminée. Hein. La semaine prochaine, c'est au tour des lycéens de passer leur examen de fin d'année avec les épreuves du bac. Et sur les réseaux sociaux, y a déjà une question qui revient. Le projet minier Simandou sera-t-il proposé ? Eh bien, vous nous le direz, vous qui nous écoutez en Guinée, si vous passez le bac, bien évidemment. Merci Jessica Taïeb. Ouais.